un vrai marin, par Jack London. Sur les bateaux de mon vieux pays, un blanc bec comme toi serait simple mousse et servirait les marins. Quand un marin crierait « Mousse, la cruche !» tu sauterais pour apporter la cruche. Et lorsque le marin crierait « Mousse, mes bottes !» tu filerais chercher ses bottes et tu serais poli et tu répondrais « Oui, monsieur !» et « Non, monsieur !» Mais parce que tu es sur un bateau américain, tu te crois un marin. Chris, mon garçon, je navigue depuis 22 ans et tu te considères mon égal. J'étais marrant avant ta naissance, j'amarrais. Je prenais des riz et je faisais des épissures que tu jouais encore la toupie au cerf-volant. Vous n'êtes pas juste, Émile, protesta Chris. Et son visage expressif se mit à rougir et s'attrista. C'était un gamin de 17 ans, élancé, mais solidement bâti, et qui portait sur toute sa personne la marque de ses origines yankees. « Voilà où tu t'obstines !» éclata le marin suédois. « Tu me nommes Monsieur Johansson, et un moutard comme toi ose m'appeler Émile. Quelle insolence ! On voit bien que nous sommes sur un bateau américain. »« Mais vous m'appelez bien Chris, » représenta le jeune homme, « parce que tu n'es qu'un gosse. »« Qui fait le travail d'un homme ?» repartit Chris. « Et puisque vous m'appelez par mon prénom, j'ai autant le droit de vous appeler par le vôtre. Nous sommes tous égaux sur le gaillard d'avant, vous le savez bien. Quand nous nous sommes engagés pour la saison à San Francisco, nous avons tous signé comme marins sur le Sophie Sutherland et on n'a fait aucune différence entre nous. N'ai-je pas toujours rempli ma tâche? Ai-je jamais tiré au flanc? Quelqu'un a-t-il dû prendre la barre, faire le quart ou grimper là-haut à ma place? » Chris a raison, interrompit un jeune marin anglais. « Personne n'a jamais eu à faire son travail. »« Meilleur !» s'exclama un homme de la Nouvelle-Écosse. « Meilleur que certains d'entre nous. Quand nous sommes entrés dans les bancs de chasse aux phoques, on a constaté qu'il valait le meilleur barreur du bord. Seul Louis le Français, qui exerce ce métier depuis des années, est capable de lui damer le pion. Je ne suis que rameur, et toi de même. Émile Torhansen, malgré tes 22 ans de navigation, pourquoi ne passes-tu point barreur ?» « Trop maladroit, » dit l'anglais en riant, « et pas assez vif. »« Tout est hors de question, » intervint le Danois Turgenson, venant au secours de son frère scandinave. « Émile est un homme fait et un marin breveté. Le gosse n'est ni l'un ni l'autre. » Et la discussion se poursuivit. Suédois, Norvégiens et Danois, prenant le parti de Turgenson à cause de la communauté de race, tandis que les Anglais, les Canadiens et les Américains soutenaient Chris. D'un point de vue strictement impartial, Chris avait raison. Ainsi qu'il venait de le dire, il exécutait le travail d'un homme aussi bien que n'importe lequel des autres. Mais chacun ayant ses préventions profondément ancrées, de l'échange des propos, naquit une querelle qui divisa le poste d'équipage en 2 camps. La Sophie Sutherland, enregistrée à San Francisco, s'occupait de la chasse aux phoques à fourrure le long de la côte nord du Japon jusqu'à la mer de Bering. Elle faisait partie d'une flottille de goélettes à 2 mâts, mais elle-même, plus grande que les autres, était une goélette à 3 mâts de hune, complètement gréée et de construction récente. Bien que Chris Farrington fût conscient de son bon droit et qu'il accomplisse scrupuleusement son service, il désirait en son fort intérieur qu'une circonstance imprévue lui permît de démontrer aux Scandinaves que son expérience de la mer valait bien la leur. Malheureusement, une nuit de tempête, à la suite d'un accident dont il n'était en rien responsable, il se meurtrit gravement tous les doigts de sa main gauche en vérifiant une chaîne d'encre de rechange. Du coup, toutes ses espérances s'évanouirent. Incapable de continuer la chasse sur les canaux, il dut demeurer à bord jusqu'à complète guérison de sa main. Il était loin de se douter que cet accident lui fournirait l'occasion tant désirée. Une après-midi de la fin de mai, la Sophie Sutherland se balançait mollement sur une mer calme, sans un souffle de vent. Les phoques foisonnaient, la chasse rendait bien. Tous les canots étaient sortis et hors de vue, emmenant presque tous les hommes d'équipage. À part Chris, il n'en restait à bord que le capitaine, le maître de manœuvre et le cuisinier chinois. Le capitaine ne devait cette préséance qu'à la courtoisie. De fait, c'était un vieillard de plus de 80 ans, parfaitement ignorant des choses de la navigation. Mais le bateau lui appartenait, ce qu'il valait son titre honorifique. Bien entendu, le maître de manœuvre, qui en réalité commandait le bateau, connaissait son métier à fond. Le second, dont le poste était à bord, remplaçait provisoirement Chris comme barreur sur un des canaux. Quand le beau temps et la bonne chasse coïncidaient, les embarcations s'éloignaient à d'assez longues distances et souvent rentraient longtemps après la tombée de la nuit. Bien que la journée se fût montrée idéale pour la chasse, Chris remarqua chez le maître une inquiétude croissante. Il arpentait nerveusement le pont et ne cessait de scruter l'horizon de ses jumelles. Pas un canot n'apparaissait. Au coucher du soleil, il envoyait même Chris à la une de misaine, mais sans plus de résultat. Les canots ne pouvaient rentrer avant minuit. Depuis midi, le baromètre était descendu avec une rapidité anormale et tout laissait prévoir une violente tempête. Mais de quelle envergure ? Le maître lui-même eût été bien embarrassé de répondre. Aidé de Chris, il se mit en devoir de s'y préparer. Ils attachèrent les garcettes sur les huniers, baissèrent et arrimèrent la misaine et la brigantine et rentrèrent les deux focs inférieurs. Ensuite, ils prirent un ris sur l'autre foc et sur la grand-voile. La nuit tomba avant qu'ils eussent terminé et avec l'obscurité se déchaîna l'ouragan. Une plainte assourdie s'éleva de l'océan et le vent coucha la Sophie Sutherland. Le maître de manœuvre à la barre, elle se rétablit promptement et présenta son avant à 5 points du vent. S'escrimant de son mieux avec sa main bandée et l'aide précaire du cuisinier, Chris brassa le foc acculé au temps. Grâce à ses manœuvres et à la grande voile battante, la goélette parvint à mettre en panne. « Dieu protège les canots, ce n'est pas la tempête, mais un typhon !» cria le maître à Chris vers 11 heures. « Trop de toile, il faut encore prendre 2 ris dans cette grande voile et ne pas s'endormir !» Il regarda ensuite le vieux capitaine, tremblotant dans son ciré, près de l'habitacle, et se cramponnant comme un noyé. « Il n'y a que toi et moi, Chris, avec le cuisinier, qui est à peu près bon à rien. » Pour pouvoir prendre les riz, il était nécessaire de baisser la grand-voile, et la suppression de cette résistance allait faire tourner la goélette devant le vent et les vagues, sous l'action du foc à l'avant. « Prends la barre !» ordonna le maître de manœuvre. « Quand je te le dirai, appuie dessus !» Lorsque le bateau aura viré, maintiens-le en position, nous remettrons en panne dès que j'aurai pris le riz. » Agrippé au poignet violemment secoué, Chris le vit disparaître vers l'avant dans la nuit hurlante en compagnie du cuisinier. La Sophie Sutherland plongeait dans les énormes vagues et roulait de manière effroyable. Ses étais de câbles d'acier, son gréement, tendu, vibraient sous les coups de vent comme des cordes de harpe. Un appel étouffé parvint aux oreilles de Chris et il sentit la proue tourner d'elle-même. La grand voile était en bas. Il actionna vigoureusement la roue tout en guettant le changement de direction du vent et le déplacement du bateau. L'instant était critique. En exécutant son évolution, le bateau devrait se présenter de flanc à la lame avant de pouvoir lui faire face. Le vent soufflait en plein sur sa joue droite quand Chris sentit la Sophie Sutherland s'incliner et commença à s'élever vers le ciel à une hauteur infinie. Parviendrait-elle à franchir la craie de cette vague gigantesque ? D'instinct, car il ne pouvait rien voir, Chris devina qu'une masse d'eau se cabrait et retombait bien au-dessus de la goélette du côté exposé au vent. Puis il y eut un instant d'accalmie où le vent, intercepté par la muraille liquide, cessa apparemment de souffler. La goélette se redressa et parut immobile, puis elle roula et accompagna la vague dans sa chute. Chris cria au capitaine de tenir bon et se prépare lui-même au choc. Mais il n'existait pas d'homme capable d'y résister. Une montagne d'eau frappa Chris dans le dos et l'arracha des poignets de la roue comme s'il n'eût été qu'un enfant. Étourdi, sans force, il fut emporté comme un brin de paille au gré d'un torrent. Il passa près de l'angle de la cabine, puis fila le long de la lisse sur au moins 30 mètres et vint heurter violemment le pied du mât de misaine. Une autre vague s'abattant sur le pont lui fit parcourir le même chemin en sens inverse et l'abandonna, à moitié suffoqué, à l'endroit où l'escalier de la poupe aurait dû se trouver. Meurtri et saignant, presque inconscient, il parvint à saisir la lisse et à se remettre sur ses pieds. Il songea qu'à moins d'un miracle, sa dernière heure allait sonner. Mais comme il se tournait vers l'arrière, un vent violent lui pénétra dans la bouche et il reprit ses sens. Le vent soufflait de l'arrière en plein. La goélette était donc sortie du creux des vagues et filait devant. Mais le tangage pouvait la renvoyer dans la même position. Cédant des pieds et des mains, Chris parvint à reprendre la roue juste à temps pour la redresser. La lampe de l'habitacle brûlait encore. Ils étaient sauvés. Du moins, la goélette et lui. Il ignorait le sort de ses 3 compagnons et n'osait quitter la roue. Il lui fallait toute son attention pour maintenir la direction. À la moindre négligence, la poussée de la mer sous le gaillard d'arrière pouvait rejeter la Sophie Sutherland. Ainsi donc, ce gamin de 140 livres assumait la tâche herculéenne de guider 200 tonnes de matière indocile à travers le chaos de la tempête. Une demi-heure plus tard, grognant et gémissant, le capitaine revenait en se traînant auprès de Chris. « Tout était perdu » geignait-il. Il était fourbu à crever. La cuisine avait passé par-dessus bord, la grand-voile et son gréement, le cuisinier, tout quoi. « Où est le maître de manœuvre ?» lui demanda Chris, quand il reprit son souffle après avoir maîtrisé une folle embardée de la goélette. Ce n'était pas un jeune enfant que de gouverner un bateau sous un foc avec un seul ris de prix au milieu d'un typhon. « Tout à l'avant !» répondit le vieillard. « Il a été écrasé sous le beaupré, mais il respire encore. Il dit qu'il a les deux bras cassés et plusieurs côtes enfoncées. Il est, ma foi, bien abîmé. Mais il va être noyé avec toute l'eau qui embarque par les écubiers. Retournez à l'avant !» Chris prenait tout naturellement le commandement. « Dites-lui de ne pas s'inquiéter que je tiens la barre. Porte-lui secours du mieux que vous pourrez et dites-lui... » Il s'interrompit pour appuyer les poignets à tribord, car une lame formidable soulevait l'arrière du bateau et le déportait à bâbord. « Et dites-lui qu'il se débrouille pour le reste. Levez l'écoutille d'avant et descendez-le dans une couchette, après quoi vous remettrez l'écoutille en place. » Le capitaine tourna son visage ridé vers l'avant et hésita. Le milieu du bateau était plein d'eau jusqu'au lisse. Il venait de le traverser et savait que la mort s'y tenait en embuscade. « Allez !» cria férocement Chris, et comme le vieillard terrifié se décidait à partir, il ajouta « Et voyez ce qu'est devenu le cuisinier !» Au bout de 2 heures, presque mort de souffrance, le capitaine revint, ayant exécuté les ordres. Le maître était en sécurité dans une couchette, mais dans l'impossibilité de remuer. Le cuisinier manquait toujours. Chris envoyait le capitaine dans la cabine changer de vêtements. Après d'interminables heures, l'aube apparut enfin, froide et grise. Chris regarda autour de lui. La Sophie Sutherland fuyait devant le typhon comme si le diable eût été à ses trousses. Il ne pleuvait plus, mais le vent projetait l'embrun jusqu'à la hauteur des mâts. Chris manœuvra le bateau entre deux vagues formidables, l'une à l'avant et l'autre à l'arrière. Que la goélette paraissait donc petite, insignifiante, perdue dans l'immense foule du Pacifique. Montant à l'assaut d'une de ces montagnes en furie, elle se balançait un instant comme une coque de noix en équilibre sur le sommet vertigineux, piquait vers l'abîme béant et disparaissait dans le creux écumant. Puis une autre montagne d'eau, une brusque ascension, un temps d'arrêt, une nouvelle glissade. Devant lui, à tribord, Chris aperçut enfin le cuisinier qui, tel un fantôme surgi de la tempête, suivait tous les mouvements du bateau. Sans doute au moment de passer par-dessus bord, il s'était empêtré dans quelque drisse roulante à laquelle il demeurait accroché. Durant 3 heures encore, seul avec ce sinistre compagnon, Chris maintint la goélette face au vent et à la houle. Depuis longtemps, il ne songeait plus à ses doigts écrasés. Les bandages s'en étaient allés. L'action du froid et du sel sur les blessures à demi cicatrisées les avait engourdis et elles ne lui faisaient plus mal. Du reste, il ne souffrait pas du froid. Le labeur épuisant de la barre chassait la sueur de tous les pores de sa peau. Mais il se sentait faiblir, autant de faim que de fatigue, et il accueillit avec un cri de joie le retour du capitaine. Celui-ci lui fit manger toute une livre de chocolat, et les forces le revinrent presque instantanément. Il ordonna au capitaine de couper le filin qui traînait en remorque le corps du cuisinier, ainsi que la drisse et les coudes du phoque. Alors le phoque flotta un instant comme un mouchoir, puis s'arracha de ses ralingues et s'envola. La Sophie Sutherland courait avec ses mâts tout nus. À midi, le plus fort de la tempête était passé, et à 6 heures du soir, les vagues moins violentes permirent à Chris de songer à quitter la barre. C'était insensé de croire que les petits canots avaient pu résister à l'ouragan. Mais il ne faut jamais désespérer quand il s'agit de sauver des vies humaines, et Chris s'appliqua à refaire en sens inverse la route parcourue dans sa fuite. Il parvint à prendre un ris sur un des phoques intérieurs et 2 sur la brigantine, puis à lisser au moyen d'un palan à la brise encore fraîche, et durant toute la nuit, tirant des bordées sur le chemin du retour, il déferla de la voile autant que le vent le permettait. Le maître de manœuvre, blessé, s'agitait dans le délire. Le capitaine le soignait et prêtait la main à la manœuvre, mais dans l'intervalle, Chris ne le laissait pas inactif. Il m'en a plus enseigné sur le métier de marin que je n'en avais appris durant tout le reste du voyage, disait plus tard le jeune homme. Mais à l'aube, les faibles forces du vieillard l'abandonnèrent et il s'endormit d'épuisement à l'abri de la dunette. Chris, qui pouvait maintenant amarrer la roue, étendit sur le capitaine des couvertures prises dans la cabine et descendit dans la cambuse en quête de quelque chose à se mettre sous la dent. Cependant, le lendemain, au cours de la journée, il dut s'avouer vaincu. Il se laissa aller près de la barre à de courts accès de sommeil, dont il s'arrachait de temps à autre pour jeter un coup d'œil sur la situation. Dans l'après-midi du troisième jour, il rencontra une goélette dématée et désemparée. Comme il s'en approchait, en serrant le vent de plus près, il vit sur le pont un nombreux équipage. Il reconnut dans le groupe certains de ses camarades manquants. Il arrivait juste à temps, car les marins livraient avec les pompes un combat qui ne s'annonçait guère à leur avantage. Une heure plus tard, les deux équipages se trouvaient à bord du Sophie Sutherland, tandis que l'autre bateau finissait de sombrer. Les camarades de Chris, trop éloignés de la goélette, s'étaient réfugiés sur ce navire inconnu, juste avant que la tempête se déchaînât. C'était un chasseur de phoques canadien, qui effectuait son premier voyage et sans aucun doute son dernier. Le capitaine de la Sophie Sutherland avait aussi une histoire à raconter. Il s'en acquitta si bien qu'au moment où tous étaient réunis sur le pont pour le petit quart, Emily Johansson s'avança vers Chris et lui prit la main. « Chris, dit-il bien haut, afin que tous puissent l'entendre, Chris, je te présente mes excuses. Tu es aussi bon marin que moi. Tu es un brave garçon et tu connais ton métier. Je suis fier de toi. » Chris, ajouta-t-il en se retournant comme s'il avait oublié quelque chose, « désormais, je t'autorise à m'appeler Émile, sans mettre le monsieur devant. » C'était « Un vrai marin » par Jack London.